Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Il nous passionne, il nous laisse impuissants. Parfois, les cold cases hantent l'histoire judiciaire. Autant d'affaires non élucidées qui pourtant, parfois, rebondissent. Une trace ADN, un témoignage, un détail et tout bascule. Ce sont ces affaires qui sont au cœur d'un livre qui vient de paraître. Cold case, 10 crimes, 10 victimes, 10 revirements spectaculaires. Les deux autrices seront nos invités dans un instant pour reprendre ces enquêtes. Mais d'abord, plonger dans l'une d'elles. Comment l'affaire Cécile Bloch a-t-elle abouti 30 ans après la mort de cette fillette de 11 ans? Tous les détails avec Elisa Trin.
Elle est la première proie de celui que l'on surnommera le grêlé à cause de sa peau marquée. Cécile Bloch, 11 ans, a été violée et tuée le 5 mai 1986 au troisième sous-sol de l'immeuble de ses parents. À l'époque, les témoignages permettent d'établir un portrait robot du tueur, un homme d'environ 25 ans. Mais il faut attendre 10 ans de plus pour qu'un profil ADN puisse être établi.
Il y a eu énormément d'enquêtes, énormément de techniques nouvelles, de polices techniques et scientifiques qui n'existaient pas en 1986. Ce portrait robot était sans doute un dessinateur qui l'a fait. Oui. Maintenant, c'est beaucoup plus sophistiqué.
Le frère de Cécile, biologiste, insiste pour que des analyses ADN soient pratiquées sur les scellés. Mais la famille se heurte longtemps à la lenteur de la machine judiciaire. En 2021, persuadée que le tueur est un ancien membre des forces de l'ordre, la juge turque convoque 750 gendarmes pour confronter leur ADN à celui du tueur. Certain d'être démasqué, François Vérov se donne la mort 2 jours avant son rendez-vous à la PJ. Dans une lettre, il avoue ses nombreux crimes, dont celui de Cécile Bloch. 36 ans après les faits, les proches de la petite fille ont enfin obtenu le nom de son meurtrier, mais à leur grand regret, ne pourront jamais le voir condamné lors d'un procès.
Et ces affaires à rebondissement, à l'image de celle de Cécile Bloch, on en retrouve plein dans cet ouvrage. Cold Case, 10 crimes, 10 victimes, 10 revirements spectaculaires. Les deux autrices sont avec nous. Bonjour Cyril Adam.
Bonjour.
Bonjour Marion Garnier. On est ravis de vous accueillir. C'est aux éditions Larousse. C'est passionnant de se replonger dans ces 10 affaires. On va en reprendre quelques-unes avec vous. D'abord, un petit mot, parce que vous êtes toutes les deux journalistes. Vous êtes réalisatrice, vous travaillez sur les faits divers depuis très longtemps. Pourquoi vous êtes intéressée spécifiquement à ces affaires qui rebondissent? Nous, elles nous passionnent, elles nous fascinent. Et c'est vrai que quand il y a un rebondissement, c'est déjà quelque chose pour les familles qui est important. Parlez beaucoup des familles.
Nous, c'est ce qui nous a poussé à travailler sur ces affaires non élucidées. C'est le combat de ces familles qui se battent pour que la vérité finisse par éclater et qui sont capables de combattre la prescription, de combattre des fermetures de dossiers. Et qui n'arrêtent jamais, en fait. Leur ténacité, ça a toujours forgé notre admiration à toutes les deux.
C'est la plus grande force d'un cold case, c'est la famille qui se bat.
C'est la famille qui se bat, ce sont aussi parfois les enquêteurs, les magistrats qui reprennent les dossiers. Ce qui est très intéressant sur les cold cases, en fait, c'est de voir comment, au fil du temps, le fait divers, comme on dit classiquement, évolue et devient un fait de société. Puisqu'en fait, la façon dont il va être traité, la façon dont la famille va ou non s'engager, donne une dimension sociétale à ce fait de société, à ce fait divers.
Et Cyrielle, Marion, c'est vrai que tous les cold cases ne sont pas traités de la même façon. Parfois, ouais, les enquêteurs, oui, la justice veut absolument que ça sorte. Puis aussi parfois, des magistrats ou une justice ou des procs qui disent « cette histoire, elle nous embistrouille, on ne sait pas quoi en faire. »
Elle nous embistrouille, oui.
Mettons.
Elle nous dérange,
c'est un mot de la Saône-et-Loire, pardon. Elle nous dérange, quoi. On en a marre. Dès qu'on la met un peu sous la pile, et puis elle disparaît. Donc si la famille n'est pas là, et si vous, les journalistes, vous n'êtes pas là pour dire « Coco, magistrat, policier, fais un peu ton boulot. »
Bien sûr, et il se passe surtout, plus rien. Surtout dans les cas de disparition, en fait, on fait plusieurs affaires de disparition. Ouais. Et dans les années 80, même les années 90, honnêtement, un individu majeur qui disparaissait, on avait vite tendance à classer l'affaire.
Les disparus de Mourmelon, Cyrielle. Les disparus de Mourmelon.
Alors moi, c'est Marion.
Marion,
mais c'est pas
Marion,
grave.
Vous
il y a bien de vacances, ne vous inquiétez pas. Puisqu'on parle des disparitions, prenons des exemples qu'il y a dans votre livre. Vous parlez d'adultes. Stéphane Dietrich, typiquement, 94, je parle sous votre contrôle, il va partir en vacances, la veille au soir, il vit chez ses parents, il
reçoit on le retrouve
fil.
Mort, il doit partir en vacances, on le retrouve mort dans un bois, il a reçu 11 coups de couteau, et dès le départ, il y a une piste assez évidente dans cette enquête, qui est celle de l'ami avec qui il devait partir en vacances. Oui. Mais là, c'est vrai que les enquêteurs jouent de malchance parce qu'arrive une autre piste par un témoignage anonyme qui met les enquêteurs sur la piste d'un meurtre commis à la fête foraine en rapport avec les gitans. Donc, ça prend du temps de retrouver ces témoins. Et en fait, au bout d'un moment, les enquêteurs sont dans une impasse et ils décident de classer l'affaire. Alors que dans le dossier, depuis le début, il y a la piste de cet ami.
Et c'est là où s'illustre le poids des familles du frère de Stéphane Dietrich qui ne lâche pas. Qui va même y consacrer sa vie. C'est assez émouvant à lire. C'est grâce à lui qu'on va éviter cette affaire.
Il va créer cette association, il va donner des concerts, il va aller placarder toutes les villes possibles pour savoir si quelqu'un aurait une information. Et même lors de la fermeture du dossier, il continue, il ne s'arrête jamais.
Comment ça se dénoue? C'est un flyer, c'est ça qu'il donne?
Il y a deux choses, ouais. Il y a à la fois une émission de télévision qui parle de l'affaire Dietrich. Ouais. Et il y a aussi un flyer
distribué
par Sylvain Dietrich. Et ça va faire révéler à un témoin clé qu'en fait, en 1994, il avait été approché par un homme pour tuer quelqu'un d'autre. Et cet homme, il arrive à identifier. Pour lui, c'est le surveillant du collège dans lequel il était. Et il arrive à le mettre en lien avec l'émission de télé qu'il a vue. Émission dans laquelle, en plus, un prénom d'usage avait été utilisé pour préserver son identité. Et il arrive à refaire le lien, en fait. Il n'avait pas fait en 94, et là, il le fait, on est plus de 20 ans après les faits.
C'est fascinant, on est 20 ans après, c'est le combat d'un frère, c'est fou. Autre affaire de disparition qui a touché tout le monde, celle de Jonathan Coulon, ce petit garçon, on est en avril 2004, il part en colonie de vacances à Saint-Brévin-les-Pins. Quand on dit Saint-Brévin, je pense que tout le monde se resitue cette affaire. Et puis on va appeler sa famille, on va lui dire, il a fugué. Malheureusement, ce n'est pas une fugue.
C'est un petit garçon qui va bientôt fêter ses 11 ans, il est parti en classe de mer, il est avec son école, il arrive du Cher, il n'a jamais vu la mer. Il est très heureux et puis un matin, dans le dortoir, il a disparu. 5 autres enfants dorment encore et disent « Jonathan n'est plus là ». Et donc, il le cherche. C'est vrai qu'au départ, les gendarmes disent « il a peut-être fugué », ce qui est quand même assez étonnant puisque le petit, il est parti en pleine nuit, il pleuvait, il est en pyjama, pieds nus, il n'a pas pris d'autres vêtements, donc ça semble un petit peu incompréhensible. Et puis, on va retrouver son corps 6 semaines après, dans un étang, ligoté, dénudé. Et là, il y a une expertise médico-légale qui va orienter les investigations parce que le médecin légiste va conclure que l'enfant est mort quelques semaines après son enlèvement, c'est-à-dire que l'auteur des faits aurait séquestré ce petit garçon. Donc, les gendarmes se disent, pour avoir les moyens de séquestrer un enfant, il faut être du coin, il faut avoir une habitation quelque part. Parce qu'en fait, son corps est retrouvé à Guérande, l'enfant a été enlevé à Saint-Brévin, une trentaine de kilomètres, on est dans la même zone. Ouais. Et c'est vrai que c'est ce qui fait que les enquêteurs français n'écoutent pas les enquêteurs allemands, qui sont pourtant venus les voir rapidement pour dire « mais nous, on a en Allemagne des enlèvements d'enfants similaires, des modes opératoires totalement similaires. »
Une signature.
Le fameux « homme en noir », comme on l'appelle à cette époque-là en Allemagne, avec des disparitions d'enfants. Les gendarmes, vous le dites, n'écoutent pas, privilégient leur thèse française jusqu'au jour où, là aussi, ça va se retourner.
Et encore, ils ont eu du mal à y croire, parce que même quand le fameux homme en noir est arrêté en Allemagne en 2011, il y a une conférence de presse qui est donnée par les gendarmes en France et qui est très claire. Les gendarmes disent « ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, on reste vraiment sur notre piste locale, on suit les conclusions médico-légales qui ont été données ». Ce n'est pas lui, alors que vraiment, on est sur un mode opératoire qui est le même, des petits garçons qui se ressemblent tous étrangement, qui ont des âges équivalents. Ouais. Tous sont enlevés en pleine nuit dans les centres de vacances. Et tous sont retrouvés dans des conditions assez similaires.
Et vous, je ne me plante plus, hein, Marion Cyriel. pardon. Et vous, donc, vous pensez que les gendarmes français, vous, enfin, vous pensez que c'est plutôt cet Allemand, le suspect ?
Aujourd'hui, c'est lui qui est mis en examen, en tout cas.
Parce que les gendarmes français, dont celui qui avait l'enquête, hein, qui s'appelle André Corbel, qui est un ancien de la SR Versailles, est plutôt un enquêteur calibré, mais lui, il ne voulait pas y croire, alors.
Moi, je pense que ce n'est pas tellement qu'il ne voulait pas y croire, c'est que 2004, ça ne semble pas très loin, mais déjà, la coopération judiciaire n'était pas la même entre les pays européens. Les expertises de scènes de crime, l'analyse criminelle aussi n'était pas la même. Donc, en fait, rapprocher des éléments, enfin, des faits sans éléments matériels autres que le mode opératoire est exactement le même, le profil de l'auteur est exactement le même, peut-être que les enquêteurs, au moment, ne réfléchissaient pas aussi avec les éléments qui sont aujourd'hui à leur disposition.
Oui.
Et cette affaire aujourd'hui, elle est relancée parce que cet homme en noir, il a été prêté à la France, il a été condamné en Allemagne, il a été prêté à la justice française, il a été auditionné et il y a un procès qui ne devrait plus tarder dans les prochains mois.
On devrait savoir bientôt s'il est renvoyé ou pas.
Ouais. Ouais.
Mais ce qui est sûr, c'est que dans ce dossier-là, il y a des témoignages, il y a un témoignage au tout départ de l'affaire qui parle de la présence d'un véhicule allemand.
Oui.
Donc il y a quand même des éléments dès le départ. Mais effectivement, à l'époque, il y a des constatations médicales.
Et Oman, on n'en parle pas, on n'a plus le temps.
On n'a plus le temps, on va renvoyer vers l'ouvrage, mais peut-être un mot quand même. Qu'est-ce qui vous, en un mot chacune, vous fascine dans toutes ces histoires ?
Vas-y. Ce qui me fascine, ce sont ces histoires qui rassemblent tous les sentiments humains. Et la notion de passage à l'acte, pourquoi est-ce que quelqu'un tue et comment, quels moyens la société est prête à engager pour aller au bout des enquêtes. À quel moment on renonce ? Est-ce qu'on doit renoncer ? Pour qui on ne doit pas renoncer ?
Et
pas seulement pour les familles, pour qui on doit continuer ?
Cyrielle ?
Pour ne pas répéter ce que ma consoeur dit, pour moi c'est plus de l'intérêt en fait. Et c'est de l'intérêt, c'est la volonté de vouloir mettre en avant ces gens, on a parlé des familles, mais on parle aussi, il y a des enquêteurs qui sont très investis. Aujourd'hui, on est dans une société où enfin, on accepte de s'être trompé à un moment et on accepte de rouvrir des dossiers en se plongeant quand même face à nos erreurs et en acceptant de dire on peut trouver. Et le crime parfait ne doit pas exister.
Passionnant. Cold Case, Chéché, Larousse, Cyrielle Adam, Marion Garnier, merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Affaires Suivantes. On est ravis de vous recevoir.